Si vous voulez bien vous tourner avec moi, nous allons tourner dans le chapitre de 2 de 1 Pierre, la première épître de Pierre, le chapitre 2, tenu à commencer la semaine dernière, ce chapitre 2. Encore une fois, le contexte, c'est une lettre qui est écrite par Pierre pour des chrétiens qui sont sous le coup de la persécution en Asie mineure. On sait que la persécution avait commencé à Rome avec l'empereur Néron, qui était monté sur le trône d'empereur de Rome à l'âge de 21 ans et qui était un peu dérangé mentalement, même beaucoup, et qui avait des idées de grandeur. Il était déjà l'empereur, il aurait pu suffire de ça, mais en plus il voulait être un poète, il voulait être un musicien, il voulait qu'on le connaisse pour tous ses talents. Il avait mis un feu à la ville de Rome, et il chantait avec sa guitare électrique, ou sa harpe, ou sa lyre. Il faisait des chants, et il trouvait ça très beau. Et puis quand il a réalisé en fait que ça passait mal avec les Romains, il a accusé les chrétiens, il a commencé à les persécuter, d'autant que les chrétiens ne voulaient pas reconnaître ils ne voulaient pas reconnaître l'empereur comme étant leur seul maître. Les chrétiens ont un autre maître, un maître qui n'est pas de ce monde, mais qui est aussi dans ce monde, le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu. Et du coup, il a fait subir des tortures des terribles aux chrétiens. On dit qu'il les couvrait de poix, P-O-I-X, pour les enflammer et les utiliser comme chandelles dans ses jardins lorsqu'il faisait des soirées de beuverie et d'immoralité. Et donc, c'est dans ce contexte Pierre va nous rappeler que nous avons en Christ, nous avons un salut, nous avons une espérance vivante, le salut en Jésus-Christ. Il nous avait dit, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est réservé dans les cieux, nous qui sommes gardés en la puissance de Dieu par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et donc, en tant que chrétiens, si nous pensons selon la Bible, selon la vérité, selon la parole, ça c'était le verset 3 à 5 du premier chapitre, nous avons toutes les raisons de ne pas perdre espoir. Nous avons une espérance vivante. Nous n'avons pas de raison de désespérer. Alors c'est facile à dire quand on est dans un pays en paix, qu'on est correctement vêtu, qu'on a eu un bon petit déjeuner, ou si on le saute, c'est parce qu'on veut perdre du poids, ou qu'on fait un marathon. Et en fait, on est vraiment privilégié. Et on le réalise mal des fois, on a tendance à se plaindre pour tout et pour rien. Je voyais une émission spéciale sur l'Apocalypse avec Staline, sur la 2 je crois, un reportage sur la guerre, sur le goulag, sur la persécution des gens qui n'étaient pas d'accord avec lui. Il suffisait d'un mauvais regard pour qu'il se retrouve envoyé aux travaux forcés où il durait 6 mois dans le froid, dans des conditions inhumaines. On connaît la Shoah, l'Holocauste, des conditions inhumaines. Et il y avait des millions de personnes qui étaient soumises à ces conditions. Et les gens mouraient sur le champ de bataille, les gens mouraient dans les camps de travail. Ces choses-là, c'était il n'y a pas si longtemps, et malheureusement encore aujourd'hui, il y a des Il y a des gens persécutés pour leur foi, il y a des gens qui vivent dans des conditions abjectes. Et je me disais, notre prospérité, nos systèmes démocratiques sont vraiment comme une parenthèse dans l'histoire. On espère que la parenthèse va pouvoir durer, mais d'un seul coup, j'ai réalisé qu'en fait, j'étais vraiment privilégié d'être né dans les conditions dans lesquelles je suis né, d'avoir pu recevoir une éducation, des soins médicaux. L'homme peut être un loup pour l'homme. Il y a le péché, c'est rien de dire. Et nous sommes tous des pécheurs, je suis le premier parmi eux. Mais de voir la souffrance, on comprend l'espérance du salut vivant. Et nous avons souvent, nous ne pensons pas trop à Dieu parce que nous avons plein de choses qui nous distraient, plein de raisons de détourner nos pensées des vraies questions de la vie. Tout ce qu'on peut faire, c'est remercier le Seigneur pour les conditions favorables qu'il nous donne, mais en même temps penser à nos frères et sœurs qui n'ont pas ces conditions, qui sont prêts à mourir pour leur foi. Nous pouvons voir ce que nous pouvons faire pour eux, pour les aider, pour les accueillir. Ce matin, je suis allé voir les enfants passer au début du marathon. Et je crois qu'il y a près de 15 000 personnes qui courent. Et je disais, ça c'est... On court, mais il y a des gens qui courent pour leur vie. Il y a des gens qui courent pour attraper un bateau avec le risque de mourir. Et j'étais vraiment impressionné par le nombre d'âmes, de personnes. Et je me disais, est-ce que ces personnes connaissent Dieu? Ces personnes courent vers je ne sais pas quoi, vers le Carlton. Tout ça pour dire que cette épître, elle doit nous toucher parce qu'elle nous parle de quelque chose que certains vivent. Elle nous parle aussi à nous qui avons des conditions plus favorables que nous n'avons pas méritées. C'est la grâce de Dieu. On ne sait pas pourquoi il nous a donné d'avoir des conditions favorables, pouvoir espérer une certaine justice du gouvernement, de la justice étatique. Et donc, c'est à ces personnes persécutées ou ces personnes qui vont être persécutées. Et rien ne dit que dans quelques années, dans quelques décades, nous ne serons pas aussi en tant que persécutés en tant que chrétiens, même en France ou dans d'autres pays. Je sais qu'on n'est pas tous... Il y a des gens d'un peu tous les pays. Prions donc pour que le Seigneur nous donne la force et que notre espérance en lui soit vraiment une source de vie, une source de secours, une source d'enthousiasme. Quand on sait qu'on a l'assurance d'un bien à venir, on peut endurer beaucoup de choses. Là, les gens qui sont dans le marathon, ça fait 3 heures qu'ils sont partis. Il y en a qui sont arrivés depuis 1 heure peut-être. Il y en a qui sont encore en train de prendre des coups de marteau sur les jambes à chaque pas. L'endurance. Il a dit au chapitre 2, donc nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, c'est le verset 9 et 10 du chapitre 2, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. C'est souvent un modèle dans la Bible, dans ces lettres, surtout dans les lettres qu'on appelle les épîtres, de rappeler au lecteur, chrétien ou non, ce que Dieu a fait pour nous, afin de nous demander de faire certaines choses. Beaucoup de religions vous demandent de faire certaines choses. sans savoir ce que Dieu a fait pour vous. Et ça nous arrive souvent lorsqu'on fait du témoignage dans la rue, il y a des gens qui viennent à nous, mais dites-moi quelles sont les règles à suivre. Alors on va voir qu'il y a des principes, il y a des attitudes à avoir, mais tout commence dans la foi chrétienne par ce que Dieu a fait pour nous. La religion, c'est l'homme qui essaye d'aller vers Dieu en gagnant des bons points, en essayant d'accumuler des mérites. Je vais à l'église tous les dimanches, donc ça doit faire 5 points. Je donne un peu d'argent à l'église et des fois quand je vois un mendiant, je donne un peu d'argent. Ça doit me faire 2 points. Et on a cette mentalité d'accumuler les bons points, alors qu'en fait la Bible ne nous demande pas d'accumuler des bons points. La Bible nous dit que Dieu a déjà tout fait pour nous. Il nous a donné la liberté d'aller vers lui ou de le rejeter. Nous avons choisi de le rejeter. C'est ce que nous faisons lorsque nous nous moquons de lui. Nous ne cherchons pas à le connaître. Nous vivons pour nous-mêmes, pour notre petite sphère d'influence. Et lorsque nous faisons ça, nous ne connaissons pas Dieu. Dieu vient vers nous. C'est lui qui vient vers nous. L'homme est fini, le fini ne peut pas aller vers l'infini, mais l'infini peut venir vers le fini. Et c'est ce que Dieu a fait en venant en la personne de Jésus-Christ, en nous révélant ses oracles, c'est-à-dire sa parole par les prophètes. Et puis maintenant il nous a parlé par le Fils et il vient nous révéler. Donc on a vu qu'on a un Dieu qui nous donne vie par sa grande miséricorde, par la résurrection de Jésus-Christ. Il fait des choses merveilleuses pour nous. C'est ça qui doit nous motiver, c'est quand on conçoit la grâce de Dieu, le fait qu'il nous donne des choses merveilleuses sans qu'on les ait méritées, qu'on veut faire des choses pour lui en reconnaissance. Pas pour mériter des bons points, mais parce qu'on a le cœur qui déborde de reconnaissance. Et on ne peut rien faire qui mérite son amour. Ça aussi, on a des fois l'impression que si justement on donne de l'argent aux pauvres, si on suit un rituel religieux, alors ça va l'impressionner. Non, ce que Dieu veut, c'est notre cœur. Il veut un cœur qui est réalisé qu'il y a un Dieu qui nous aime, il y a un Dieu d'amour. Et puis, nous ne savons pas pourquoi, mais il a décidé de faire de nous un peuple racheté. Si nous mettons notre foi en lui, nous lui appartenons. Quel que soit notre passeport humain sur Terre, certains en ont plusieurs, certains n'en ont pas parce qu'ils n'ont qu'une carte d'identité, c'est pas grave. Nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, mais pas pour le plaisir de se dire on est les plus forts, on est les plus beaux, mais pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Dieu nous sauve, mais il nous laisse ici-bas. Il pourrait nous emmener tout de suite au ciel. Ce serait pas mal. Moi, je serais partant. Mais il nous laisse ici pour annoncer les vertus de celui qui nous a amenés des ténèbres à la lumière. S'il nous laisse ici-bas, c'est pour que nous puissions témoigner. Et là, il va commencer à partir du verset 11. On avait déjà vu ces versets, mais c'est pour les replacer dans le contexte. Bien-aimés, je vous exhorte. Je suis au verset 11 du chapitre 2, page 263 dans la Bible à la Colombe. Bien-aimés, je vous exhorte. Je vous demande sérieusement, faites tous vos efforts. En tant qu'étrangers et voyageurs, à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. On n'est ici que de passage. On aimerait bien des fois s'installer, mais tôt ou tard, on va continuer le voyage. La vie terrestre va cesser et le voyage ne va pas s'arrêter, il va continuer. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Il nous demande de nous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Alors on pense souvent les désirs, la chair, les désirs charnels, on pense à l'immoralité sexuelle. C'est pas seulement cela, c'est tout ce qui ressort, qui est de nature à plaire à notre vieille nature égoïste qui cherche à être adorée, à être glorifiée, qui veut avoir toujours la plus grosse part. Lorsqu'on partage quelque chose, d'ailleurs ça me fait rappeler un épisode lorsque mes enfants étaient jeunes, petits, et qu'il fallait partager un gâteau en deux morceaux. Je crois que Ellie fait ça tout le temps, elle continue à faire ça. On coupe en deux et il y en a un qui coupe le gâteau en deux et c'est l'autre qui a le premier choix. En général, ils font très attention à bien partager en deux. Nous sommes appelés à nous abstenir des désirs de la vieille nature qui veut la plus grosse part. On est appelé à ne plus penser à soi d'abord. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je pense souvent à moi. Ça doit être quelque chose qui procède de cette vieille nature, parce que je crois que si on est honnête, on pense souvent à soi en premier. On dit aux gens, je vais penser à vous. On peut avoir une pensée, mais qu'est-ce que je pense à moi ? Au milieu des païens, maintenant il est question de témoignage. Les païens, ce n'est pas des gens sauvages, c'est simplement des gens qui ne sont pas venus à Christ. C'est une traduction du terme goïm, qu'on traduit des fois aussi par gentil. Ce sont les gens qui n'ont pas de foi en Dieu. Ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes et glorifie Dieu au jour de sa visite. Vous avez, si vous êtes chrétien, vous avez sans doute été accusé de choses fausses. On a dit que vous faisiez le mal. À l'époque, on accusait les chrétiens de cannibalisme, parce que Jésus avait dit de manger sa chair. Et ils prenaient la Sainte Cène, et on disait, oui, non, là, ils se mangent entre eux. Et d'une façon générale, on est souvent calomnié. Si on dit que le mariage doit être réservé à un homme et une femme, on est accusé d'avoir l'esprit étroit. Seule chose qu'ils n'ont pas encore réussi à faire, mais je suis sûr qu'ils y travaillent, c'est de faire que les hommes puissent avoir des enfants, puissent porter des enfants. Je crois que la technologie médicale pourrait le permettre, mais ils y travaillent. Hein. Ils veulent absolument prouver que la Bible est fausse, qu'il n'y a pas de différence physique, physiologique. Et on est critiqué parce qu'on est arriéré. Parce qu'on est obscurantiste. Si on met en doute l'évolution, alors là, c'est des cris d'orfraie. Oh là là, c'est pas possible. Toi aussi, tu ne crois pas à l'évolution. Alors on croit à la microévolution, qui est prouvable scientifiquement, mais l'évolution dont il parle, elle n'est pas du tout prouvée. Ce n'est qu'une théorie qui a été élaborée en plus il y a 2 siècles. Ou 1 siècle et demi. Un temps où il n'y avait pas d'ordinateur, où on ne connaissait pas le DNA, l'ADN. Les obscurantistes, ce n'est pas ceux qui le croient. Mais on nous dit d'avoir une bonne conduite. Vous avez peut-être, et à juste titre, conscience que la création de l'homme commence à la conception. Parce que si l'embryon est donné les, les bonnes conditions, il va arriver jusqu'à maturité, l'homme est en devenir, il est déjà là. Et puis on a légiféré et on a dit que non, jusqu'à ce que l'enfant naisse, il n'était qu'un magma, une masse, et qu'on pouvait légitimement, légalement, supprimer la vie de cet être en devenir. Alors, au milieu des païens, il y a une bonne conduite. Ça ne veut pas dire qu'il faille aller faire exploser des bombes dans les hôpitaux qui se livrent à des avortements. Vous pouvez exprimer votre désaccord et aussi on va voir qu'il faut, verset 13, « À cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés comme des hommes libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais comme des serviteurs de Dieu. » Verset 16. On doit être soumis aux autorités. Ici, on verra qu'il y a d'autres domaines dans lesquels on doit être soumis. Ayez une bonne conduite, ne faites pas le mal, mais que les gens puissent voir vos œuvres bonnes. Si, pour revenir à notre exemple de l'avortement, si vous êtes bibliquement et à juste titre contre l'avortement, ce n'est pas en faisant exploser ou en tuant des gynécologues qui font ça que vous allez faire avancer la cause de Dieu et la cause de ces gens, de ces enfants. Mais vous pouvez faire du bien. Vous pouvez peut-être proposer d'accueillir chez vous la jeune femme qui est enceinte et qui n'a personne chez qui aller. Vous pouvez, par toutes sortes de méthodes, protester, mais en ayant une bonne conduite. Vous pouvez faire savoir que vous êtes pour la vie. Il y en a qui, généralement, en fait, ceux qui sont pour le choix, en anglais les pro-choice, c'est pour la mort de l'enfant. Ce n'est pas un choix. Mais on ne va pas s'apesantir. C'est juste un aspect des choses qui nous mettent en conflit avec le monde. Mais, de façon surprenante, à cause du Seigneur, pour la cause du Seigneur, soyez soumis à toute institution humaine. L'institution humaine, c'est le gouvernement, c'est d'autres agences gouvernementales, c'est la justice humaine. Toutes ces choses-là, on doit y être soumis. On vit à une époque où le mot « soumission » a très mauvaise presse. Là, il y avait quelques personnes qui, ce matin, sur le parcours du marathon, il y avait aussi des cyclistes qui étaient partis un peu avant. C'est idéal, on a la route à soi jusqu'à Cannes, tranquille. Et la dernière fois que j'étais là, que j'ai vu passer des vélos, c'était pour le Tour de France. Une chose qui m'a toujours frappé dans le Tour de France, c'est les équipiers qui travaillent sans arrêt pour le leader de l'équipe. Ils sont prêts à lui passer leur vélo si le vélo du leader crève. Ils sont prêts à lui chercher de l'eau s'il est... Il est en retard parce qu'il y a une faiblesse momentanée. Ils vont l'attendre, ils vont aller le chercher, ils vont l'aider à revenir. Et en fait, l'équipier est soumis à son chef de file, à son leader. Et en fait, cette structure, cette soumission permet à toute l'équipe de fonctionner. Et souvent, normalement, c'est la pratique, le chef de file, le leader, remet tous ses gains à son équipe. Donc ils s'humilient en quelque sorte, ils se soumettent au premier de l'équipe, mais l'équipe peut fonctionner comme ça. C'est toujours intéressant lorsqu'il y a des cyclistes très talentueux dans une équipe qui sont des fois en meilleure forme que leur leader, et on voit qu'il y a une certaine tension qui se passe, mais ils doivent respecter cette hiérarchie pour que l'équipe puisse fonctionner. Ils se font rappeler à l'ordre par leur directeur sportif s'ils s'échappent à leur tour. C'est un peu la même chose aussi dans l'armée. Le mot soumission, ça veut dire se placer dans une hiérarchie pour que l'ensemble puisse fonctionner. Dans l'armée, le capitaine n'est pas une personne moins importante, n'est pas une personne moindre, avec tout son potentiel, toutes ses qualités, que le colonel. Mais si le capitaine n'obéit pas aux ordres du colonel, alors là, c'est la pagaille. Rien ne va plus dans le régiment. On vit dans une époque où on n'aime pas être soumis à qui que ce soit. Et ça rappelle les passages bibliques qui nous disent dans l'histoire d'Israël, il y avait un moment où il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est la période des juges, c'était la cata. Il n'y avait pas de défense organisée, il n'y avait pas d'agriculture organisée, et on remarque en fait qu'on fait de plus en plus, c'est la mentalité de l'homme moderne. Ni Dieu, ni maître, le slogan de mai 68, ne m'embêtez pas, je suis libre. Libre, je suis libre. Mais la Bible nous dit, soyez soumis aux institutions humaines, au roi comme souverain. À l'époque, le roi, c'était, je vous le rappelle, c'était Néron qui était un roi abject. Un empereur psychopathe, pour employer un terme commun, courant aujourd'hui, c'était soit au gouverneur, donc au roi, ou au gouverneur, qui est envoyé par lui pour punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. C'est Dieu qui a institué les gouvernements. Et le gouvernement est institué pour le bien des hommes. Normalement, un gouvernement doit être là pour punir ceux qui font le mal. C'est le rôle des forces de l'ordre, de la justice, du système pénitentiaire. Punir ceux qui font le mal et louer ceux qui font le bien. Complimenter ou favoriser ceux qui font le bien, qui obéissent à l'intérêt général. La question, c'est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le bien, on réduise au silence l'ignorance des insensés. Ce n'est pas facile d'obéir à un gouvernement corrompu, c'était le cas, mais le principe de l'établissement de gouvernement, c'est pour le bien des hommes et des femmes qui vivent sous ce gouvernement. S'il n'y avait pas de gouvernement, s'il n'y avait pas d'impôts, il n'y aurait pas de route. Ou il y aurait peut-être des petits bouts de route qu'on se construirait, chacun se construirait. On n'aurait pas de système d'approvisionnement en eau. On aurait chacun une grande baignoire dans le jardin pour récupérer l'eau de pluie. Le gouvernement, c'est quelque chose de bien. Mais c'est, comme c'est fait par les hommes, ou par des hommes plutôt, voulu par Dieu, mais fait par des hommes, c'est imparfait et c'est souvent très corrompu. Et On a du mal, dans notre époque, surtout avec les guignols de l'info, à respecter les gens qui nous gouvernent. Une façon de dire la chose, c'est on doit respecter la fonction. On peut ne pas être d'accord avec la personne qui l'incarne ou trouver qu'elle n'a pas les qualités que l'on souhaiterait voir à cette personne. On aimerait que le ministre du Travail sache qu'est-ce qu'un CDD. Et on se dit, mais c'est pas possible. Mais un témoignage de chrétien, c'est d'obéir à ses gouvernements. Le témoignage, on dit des fois qu'on doit témoigner en parole, c'est vrai qu'on doit expliquer pourquoi on fait certaines choses et que c'est parce que Dieu nous aime et qu'en retour on veut le servir, on veut l'honorer. Mais nos actions, elles parlent souvent bien plus que nos paroles. Il y a quelqu'un qui disait « L'évangile s'écrit un chapitre par jour par les actions que je fais et les mots que je dis ». Les gens lisent ce que je dis, que ce soit faux ou vrai. Dites-moi, quel est l'évangile selon vous? Comment vivez-vous? Comment témoignez-vous? Il faut que les gens voient nos œuvres bonnes, glorifient Dieu au jour de sa visite, le jour où il vient frapper à la porte de nos cœurs, le jour où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Nous devons avoir fait des œuvres bonnes. C'est un témoignage. Et c'est la volonté de Dieu qu'en faisant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des insensés. Souvent, les gens me disent, j'aimerais connaître la volonté de Dieu. Ben voilà, la volonté de Dieu, c'est qu'en faisant le bien, vous réduisiez les ignorants, l'ignorance des insensés au silence. On vous demande de faire du bien, d'être soumis. Les autres institutions que Dieu a établies, c'est la famille, principe de base, un père, une mère, une famille, le gouvernement et l'Église. Ici, on est donc exhorté à être soumis au gouvernement. Je sais que dans vos esprits, vous dites, mais quand il y a un gouvernement comme le gouvernement de Staline ou celui d'Hitler, est-ce qu'on doit vraiment obéir? Le principe d'obéir le gouvernement, ce n'est pas seulement Pierre qui s'est égaré, là, qui a dit des choses. En fait, dans toute la Bible, et notamment dans le Nouveau Testament, on retrouve ce principe dans Romains 13 notamment, versets 3 et 4. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité, fais le bien et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Encore une fois, le gouvernement a été institué par Dieu pour punir les malfaiteurs et encourager ceux qui font le bien. Après, si vous êtes exemplaire, on peut vous donner les palmes académiques, la Légion d'honneur, ça ne doit pas être votre motivation. Mais on nous exhorte aussi à payer nos impôts. Là, c'est souvent difficile. Verset 6, c'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu sont là pour cette fonction précise, c'est dans Romains 13. Rendez à chacun ce qui lui est dit, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Et je disais, sans doute, vous vous posez la question, est-ce qu'il n'y a pas une limite? Et Dieu merci, ce principe d'être soumis au gouvernement et de respecter les autorités, les lois, c'est lorsque ces lois ou ce gouvernement vous demande d'agir de façon clairement en opposition avec la volonté de Dieu, la volonté divine. On a l'exemple, par exemple, des apôtres à qui les autorités de l'époque avaient absolument défendu de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Acte 4, 19, Pierre et Jean leur répondirent « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Si on vous demande de faire des choses contraires à la volonté de Dieu, vous avez le droit de résister. Vous avez le droit d'être opposé à ces choses. Verset 16, il nous dit de faire cela sans faire de la liberté, d'utiliser de notre liberté comme d'un voile qui couvre la méchanceté, mais comme serviteur de Dieu. Nous sommes libres en Dieu, mais nous sommes aussi appelés à ne pas faire trébucher ce qui nous entoure. Si par exemple vous êtes libre, et même de par la parole de Dieu, qui nous met en garde contre le vin, contre les alcools, fort, de ne pas être sous l'influence de l'alcool, mais rien ne vous n'interdit que vous ayez un verre de vin, si c'est quelque chose que vous pouvez supporter. Par contre, la Bible nous appelle à limiter cette liberté que nous avons en pensant aux autres. Et s'il y a des personnes qui sont susceptibles ou qui viennent de faire des traitements contre l'alcoolisme, qui ne doivent pas toucher à l'alcool, c'est votre liberté, elle vous encourage aussi à ne pas boire. La liberté, c'est aussi de savoir se restreindre. Ce n'est pas toujours faire plus et toujours davantage de choses impies ou impures. On doit se soumettre et on doit, verset 17, honorer tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. Honorez tout le monde. Aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. C'est un contraste saisissant avec certaines religions qui demandent d'exterminer tous ceux qui ne croient pas comme vous. La foi chrétienne vous dit d'honorer tout le monde. Ça ne veut pas dire nécessairement être d'accord, ne pas exposer vos désaccords, mais vous devez donner le respect aux gens, quels qu'ils soient, tout le monde. Et quand je repense à Staline, au Goulag, à Hitler, à la Shoah, persécution de Mao Tse-tung, c'est des choses qui n'étaient pas à la base de leur système de pensée. C'est moi d'abord, le parti d'abord, le parti que je contrôle d'abord. Et si on essaye de prendre le pouvoir dans le parti, je vous fais exécuter. Je vous fais planter un piolet dans le crâne. C'est comme ça que Staline a fait exécuter Trotsky quand il était au Mexique. Ça, c'est pas la foi chrétienne. Même s'il allait à l'église et qu'il respirait l'encens des popes. Honorez tout le monde. Aimez vos frères. Nos frères en particulier. Vos frères croyants. Il n'y a pas de place pour le désamour, pour la jalousie, pour la haine entre chrétiens. Et puis, il dit quelque chose qui est surprenant, 18, « Serviteurs, soyez en tout te crains soumis à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Car c'est une grâce que de supporter des peines par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Quelle gloire, en effet, y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir péché? Mais si tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. C'est à cela, en effet, que vous avez été appelés, parce que Christ aussi, lui aussi, a souffert pour vous et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui insultait ne rendait pas l'insulte, souffrant ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, c'est-à-dire sur la croix, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Serviteur, et c'est le mot qui était aussi utilisé pour le mot d'esclave, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Souvent on fait le reproche à la Bible de ne pas avoir prôné l'abolition de l'esclavage. Et à l'époque du Nouveau Testament, il y avait près de 6 millions d'esclaves dans l'Empire, il y en avait presque 6 fois plus que de citoyens. L'esclavage, c'était quelque chose de très commun. Quand on parle d'esclavage, on a souvent la vision de l'esclavage contre les Afro-Américains au début de la vie des États-Unis. L'esclavage, les Africains qui étaient emportés d'Afrique vers le Nouveau Monde, entre guillemets, et qui vivaient dans des conditions abjectes. Souvent, les esclaves dans l'Empire romain avaient une position différente. Ça ressemblait plus à des employés. Ils avaient certains droits. Ils étaient nourris, souvent nourris, logés et souvent aimés. Ils avaient aussi des responsabilités, comme ils pouvaient être professeurs, ils pouvaient gérer des choses. Ça ressemblait plus en fait à des employés. Il y avait des conditions d'esclavage abject aussi, malheureusement, mais ce n'était pas aussi terrible que lorsqu'on prononce le mot esclave aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit là, serviteur, soyez en toute crainte soumis à vos maîtres. Aujourd'hui, on pourrait transposer ça à employé. Soyez en toute crainte soumis à vos employeurs, à vos patrons. Non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Ça, c'est pas facile. On aime bien se plaindre de ce qui nous entoure. Et une des cibles préférées, c'est le patron, la boîte. Après, c'est Hollande et le gouvernement. Mais notre patron, en général, on aime bien casser du sucre s'il fait pas tout comme on voudrait. Et le chrétien est appelé à être un bon citoyen vis-à-vis du gouvernement, vis-à-vis de son employeur aussi. C'est toujours intéressant, on a souvent des réunions de prière où on prie pour un emploi et finalement la personne, Dieu exauce et la personne trouve un emploi. Et quelques semaines plus tard, des fois des mois, mais des fois quelques semaines ou quelques jours après, on demande des prières pour que le patron se casse une jambe ou disparaisse ou qu'il parte ou j'en peux plus de ce patron. Et si vous essayez de suivre cette prescription de la parole d'être de bons employés, d'être soumis, d'être respectueux, de faire ce que le patron vous demande, vous allez être surpris des résultats. Parce que ça va contre notre nature, ça va contre le grain de notre façon de penser, de réagir. Et c'est plus facile, c'est vrai, si le patron est bon, si le patron est sage, il montre de l'humanité, s'il respecte vos croyances, c'est encore mieux. S'il est croyant, à plus forte raison, on doit être soumis. Encore une fois, c'est cette position de dire je suis, c'est pas moi le patron, je suis employé, je suis responsable de ces choses, je les fais du mieux que je peux et je respecte mon patron. Et lorsqu'on fait ça, d'abord, la vie est plus agréable. On n'a pas ces pensées négatives en train de remonter comme des brûlures gastriques, comme l'estomac qui nous brûle contre le système, contre notre environnement de travail où on passe beaucoup de temps. Et là, il va même plus loin, il dit, mais c'est facile quand le patron est sympa, mais moi je vous demande, vous les esclaves, d'aimer votre de d'être soumis, pas d'aimer, d'être soumis à votre maître, même lorsqu'il est pénible, ou qu'il est fou, ou qu'il est difficile. Ça, c'est un mot entre guillemets. Comme on dit des fois, ça on goûte quelque chose, un nouveau plat, tu as aimé, c'est intéressant. Il est comment ton patron? Il est difficile. Comment ça va avec dans ta relation? C'est compliqué. C'est des petits mots lourds de sens. Un patron difficile, ça peut aller très loin. Et là, il dit, mais c'est vrai, après tout, si vous faites ce qui est bien avec quelqu'un qui est facile à vivre, quel est le mérite? Pourquoi est-ce qu'on vous féliciterait? Par contre, si vous faites le bien, tout en faisant le bien, vous supportez la souffrance, c'est une grâce devant Dieu. Dieu vous voit, Dieu sait vos conditions. Il sait qu'il vous obéissait à ce qu'il vous a demandé de faire, d'être un bon employé, d'être sans rouspéter tout le temps. Et là, si vous en doutiez, si vous dites, ça c'est Pierre, ça va, c'est parce que toi tu travailles que le dimanche matin, 2 heures, et puis c'est tout, c'est facile de dire ça, mais moi qui trime toute la semaine, il nous donne l'exemple de Christ. Christ a souffert. Il s'est humilié, il s'est. Le mot grec c'est upotasso, soumission, se mettre dessous. Il s'est mis dessous l'autorité de ces soldats romains, de ces juges juifs, de cette proconsul Ponce Pilate. Il a accepté de supporter la souffrance. Il n'a pas commis de péché, il n'avait aucune fraude dans ses paroles. Ça, c'est le prophète Ésaïe qui parlait de lui, qui prophétisait. Il était insulté, il ne rendait pas l'insulte. Souffrant, il ne faisait pas de menaces. Il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est l'exemple ultime de celui qui a accepté de se soumettre pour Dieu et pour les hommes. Il a porté nos péchés dans son corps. Il est mort pour mes péchés sur la croix. L'expression, c'est sur le bois, c'est une référence à des prophéties. Afin que mort à nos péchés, pas dire que nous ne commettons pas encore des péchés, mais la punition de notre péché a été prise sur la croix. Nous n'avons pas à subir la punition. Nous pouvons même ne plus avoir à supporter la tyrannie de notre péché. Nous sommes libres de dire non au péché. Et puis il reprend des expressions du prophète Ésaïe dans Ésaïe 53. Lui dont la meurtrissure nous a guéris, nous étions comme des brebis errantes, ça aussi, vous étiez tous comme des brebis errantes, et maintenant vous êtes retournés vers le berger, le gardien de vos âmes. Nous devons apprendre à respecter les autorités, c'est un témoignage montré aux gens qui nous entourent, c'est une façon de, comme on l'avait lu, d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière, c'est en nous soumettant aux autorités instituées par Dieu, que ce soit le gouvernement, que ce soit nos employeurs, parce que même si ça va contre nos instincts, notre nature, on a l'exemple de Christ. Il aurait pu, il l'a dit, lorsque Pierre, et rappelez-vous qui écrit ce texte, c'est Pierre qui lui avait pris l'épée pour dire à couper l'oreille du grand prêtre qui venait saisir le sauveur Jésus, lui qui avait juré ne pas connaître Jésus parce qu'il l'avait laissé être pris, il avait vu comment Jésus était comme un agneau devant ceux qui le mettaient à mort. Il n'avait pas... Tout au long de son ministère, Jésus était insulté. Il ne répondait pas par les insultes. Combien il est difficile de ne pas répondre à l'insulte par l'insulte. Je parle pour moi, je ne sais pas pour vous, mais dès qu'on commence à nous agresser, on a tendance à agresser en retour. Et ça, ce n'est pas un témoignage, parce que tout le monde le fait. Par contre, si on est contrôlé par l'Esprit Saint et qu'on arrive à se soumettre sans rouspéter, à ce moment-là, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu agis comme ça? Alors c'est avec l'aide de Dieu qu'on peut être un témoignage de la sorte. Et puis on verra que ça ne s'arrête pas là, la soumission, ça se passe aussi dans le mariage. J'avais enseigné sur la soumission dans le mariage en Suède, et la personne qui m'avait prévu pour ça m'avait dit « Amuse-toi bien maintenant, tu es dans le pays où les femmes sont les plus libérées au monde. » Va leur dire que dans le mariage, une femme doit se soumettre à son mari. Encore une fois, on verra ce que ça recouvre et ce que ça ne recouvre pas. Je vous invite donc à la semaine prochaine, si vous pouvez être là. Seigneur, merci pour cette parole. Merci parce que c'est des choses qui vont contre notre nature, qui vont même contre notre culture, le fait de reconnaître, d'être reconnaissant pour les institutions humaines, pour le gouvernement. Seigneur, c'est vrai que souvent ces gouvernements ne sont pas parfaits, qu'il y a bien des choses à redire, que les employeurs ne sont pas parfaits, qu'il y a bien des choses à redire. Il y a la politique, il y a les syndicats pour faire ces choses dans l'ordre et la soumission à ces principes. Seigneur, on te demande de nous aider à être des vrais témoins, à annoncer tes vertus. Tu nous as emmenés de l'obscurité totale vers ta lumière, Seigneur, et nous voulons en témoigner, nous voulons être soumis aux autorités, Seigneur. Apprends-nous à l'être, à ne pas l'être, mais en ayant un cœur qui est prêt à donner des insultes, à se moquer, à critiquer. Donne-nous cette grandeur d'âme que tu as manifestée en Jésus-Christ, qui pour ta gloire est allée comme une brebis, pour devenir notre berger, Seigneur, nous qui sommes des brebis errantes.